je vais aborder, excusez-moi, l'homme québécois qui persiste, aborder le thème de la gouvernance par le biais maintenant de, des usages et mésusages sociaux et politiques qui peuvent être faits du concept de vulnérabilité. Alors, on va voir un peu de quelle façon ce concept-là peut être utilisé, même dans une dimension politique, et voire même pour une dépolitisation des politiques de santé publique. Alors, on est déjà familier, évidemment, dans nos systèmes de santé, dans nos systèmes de santé publique en particulier, avec la définition, dans le champ de la prévention en particulier, la définition des comportements à risque, des populations à risque et des groupes à risque. Il y a, parallèlement à ça, ce qu'on appelle une approche plus épidémiologique des problèmes de santé, et d'identification des groupes qui seront ciblés par les politiques. Ensuite, on va, dans un deuxième temps, on a vu un peu émerger les problématiques de pauvreté, les problématiques associées à la précarité, où là, il y avait une dimension, disons, un peu plus politique qui se greffait à cette sensibilité de santé publique, qui consistait à dire que, bon, peut-être le focus devrait être placé un peu plus sur les facteurs qui, en amont, causent ou fait, prédisposent les gens à ces vulnérabilités-là. Or, depuis peut-être 5 ans, c'est pas exclusivement depuis 5 ans, mais il y a vraiment une recrudescence de l'usage du concept de vulnérabilité en santé publique qui, à mon avis, amène un phénomène ou s'inscrit dans un phénomène de moralisation des interventions de santé publique, où il y a une vision des vulnérabilités, des populations vulnérables qui, à ce moment-là, devient, à mon avis, enfin, un objet de réflexion. Il y a donc une évolution de la perception des groupes vulnérables, enfin, des groupes à cibler dans les par les politiques de santé publique, qui, enfin, à mon avis, est d'intérêt pour une anthropologie qui devrait s'intéresser donc, à cette construction, ces nouvelles modalités de construction épidémiologique, puis plus politique et maintenant plus éthique des vulnérabilités des rapports au risque. Alors, il y a différentes questions qui deviennent, à mon avis, d'intérêt dans ce contexte-là. Pourquoi, par exemple, certaines vulnérabilités deviennent des objets de politique de santé publique absolument incontournables, alors que d'autres types de vulnérabilités, ou attachés à certaines clientèles, sont beaucoup moins, sont considérés comme beaucoup moins importants. Pourquoi aussi certains groupes vulnérables font des traitements différentiels de cette nouvelle identité de vulnérable-là? Alors, dans certains cas, il y a des groupes qui vont vraiment revendiquer ce statut de vulnérabilité-là et vont l'utiliser potentiellement comme un levier politique pour défendre des intérêts, alors que d'autres groupes vulnérables auront plus tendance à contester, peut-être même, ou à nier, enfin, à combattre cette nouvelle identité de vulnérable-là qu'on veut le rattacher. Alors, il y a un enjeu pour l'anthropologie de la santé ici, certainement, qui est l'analyse un peu des interfaces entre ces constructions épidémiologiques, sociopolitiques et morales ou éthiques, si on veut, du risque, et donc d'un certain recadrage de la vie sociale des vulnérables à l'intérieur de différents processus de moralisation auxquels on fait face dans la société. Alors, évidemment, revenons un peu à cette notion de construction peut-être plus épidémiologique du risque au départ. On est donc face à une conception du citoyen comme personne vulnérable à des mortalités évitables. Mais dans ce contexte-là, le vulnérable, il est vu comme quelqu'un de fragile, comme quelqu'un de faible, qui est conçu comme un peu dépourvu des outils ou des compétences, enfin les capacités, là, le concept qu'on utilise beaucoup en santé publique actuellement, et absence de capacité qui s'inscrit, ou en tout cas qui cohabite avec une forme d'habitus de la misère ou d'habitus de la soumission aux facteurs de risque ou différents facteurs auxquels ces populations-là donc, deviennent plus vulnérables à des problèmes de santé qui émergeront. Dans ce contexte-là, la définition des rapports au risque ouvre la porte à toutes les études, enfin, les promotions, les interventions visant l'empowerment de l'individu. Il y a une construction épidémiologique du blâme de la personne vulnérable qui est inscrite à l'intérieur de tout ça. Et à travers cette notion d'empowerment-là, on véhicule aussi une certaine notion, conception, comme quoi l'individu n'a pas les capacités. Enfin, il a peut-être les ressources potentiellement, mais il n'a pas les ressources effectives pour se protéger de façon adéquate. Et donc, on va développer tout un ensemble d'interventions et de programmes qui vont viser à développer ce potentiel chez lui. Donc, quelqu'un qui est conçu comme techniquement incompétent pour faire face à ces problématiques-là. Alors, le processus d'empowerment enrichit donc cette notion de construction morale du blâme qu'on va adresser à ces populations donc, à risque dans les perspectives classiques. Il y a évidemment un lien avec cette notion de définition des populations à risque, une notion d'étiquetage social qui est incontournable. Non seulement les gens partagent des facteurs de risque très évidents, leur comportement par exemple, mais il y a un processus d'essentialisation qui déborde largement ces concepts de facteurs de risque simplement. Bon. Alors le fumeur, le consommateur de drogue injectable ou le CRO positif sera considéré comme réputé là, par essence même, comme partageant tout un ensemble de caractéristiques aussi psychologiques, individuelles. Donc associé aussi à cet habitus de misère sociale ou de misère de prévention, dans lequel il se trouve donc dépouillé de toute réserve, de tout outil personnel. Et donc, évidemment, ne sachant pas exploiter les ressources sociales et politiques qui lui permettront aussi de s'inscrire dans une logique vraiment de prévention. Alors, cette essentialisation-là de l'individu, porteur non pas seulement de facteurs de risque, mais porteur aussi d'une incompétence en termes de prévention, va servir évidemment ou de base à des processus de discrimination, d'étiquetage social négatif et de discrimination, puis éventuellement de stigmatisation sociale. Alors, ces groupes-là vont se voir, excusez-moi, si je peux arriver jusqu'à la fin, ces groupes-là vont se voir associés par la morale populaire, hein, des notions donc d'irresponsabilité, d'irrationalité et d'incompétence, voire de manque de volonté. Et il va y avoir donc, ils deviennent des objets de compassion ou de critique sociale, où l'étiquetage va prendre, selon l'analyse que Goffman en faisait, une forme donc d'identité abîmée, mais abîmée par les jugements moraux et le discrédit dont le groupe sera forcément affublé. Mais il n'y a pas simplement donc, il y a un passage donc, des facteurs de risque, de cette définition des populations à risque, donc plus épidémiologique avec un discours de blâme sur ces populations-là, à un phénomène d'étiquetage social. Mais là, on assiste, dans les dernières décennies, certainement à une autre étape, une troisième phase de mobilisation communautaire par rapport à cet étiquetage-là. Alors, il y a certaines des populations vulnérables qui vont se muer en groupe de pression, qui vont embrasser peut-être volontiers cette étiquette de vulnérable, mais qui vont, donc, pour mieux défendre leur droit d'avoir leur libre arbitre, de bien d'avoir le droit de fumer, d'avoir des comportements à risque quelconque, mais aussi le droit à revendication à des ressources adaptées pour leurs besoins. Ce phénomène-là trouve un peu son équivalent, évidemment, en médecine curative, hein, avec les différents groupes de défense des personnes. Je parle de toutes sortes de problèmes de santé, autisme, dystrophie musculaire, cancer, on évoquait un peu tantôt. Une liste qui s'allonge, évidemment, au gré de la mobilisation progressive des groupes de malades, hein, qui vont, et de leurs proches et des professionnels de santé qui défendent leur intérêt. Alors, il y a une mobilisation communautaire des vulnérables, évidemment, qui a déjà fait l'objet de différentes analyses, un peu plus sociopolitiques. Alors, dans certains cas, on a vu dans ces mouvements, cette mobilisation communautaire des vulnérables, comme étant un phénomène qui est porteur d'un courant de responsabilisation de la société civile. Bon, mais ben, au moins, il y a quand même cette dimension-là. Les gens se prennent en charge, se prennent en main et ils revendiquent, non pas simplement en déléguant aux professionnels de la santé ou aux politiques de santé publique la responsabilité d'améliorer leur sort, mais donc il y aura sous-jacent à ce phénomène-là une auto-prise en charge, une mobilisation citoyenne, évidemment, qui serait intéressante et louable, évidemment, là-dedans. Certains vont même jusqu'à y voir l'opportunité pour redynamiser les démocraties, en disant que plus les groupes communautaires, les associations associatives se mobilisent, que ce soit derrière une étiquette de vulnérabilité ou non, il y a une démocratisation et une prise en charge par la population de leurs besoins qui serait aussi intéressante. Bien entendu, on peut en faire une lecture inverse, hein, totalement. C'est-à-dire qu'on peut voir dans ces discours sur la vulnérabilité une façon pour l'État aussi de mieux contrôler les populations dans une logique de panoptique, là, une logique de surveillance et de contrôle des populations. Il y a toujours les deux volets qui s'opposent à nous. D'autres lectures, ils voient l'expression d'une quête de reconnaissance de la part des communautés vulnérables. Alors, on est dans toute cette sociologie de la reconnaissance qui donnant extrêmement, une position extrêmement intéressante, surtout aux analyses d'Axel Van Nett, Zygmunt Bauman et compagnie, où il y a l'hypothèse d'une absence ou d'une insuffisance de reconnaissance sociale qui alimente un sentiment de victimisation, d'un mépris social, et qui serait à la base, donc, au fondement de ce mouvement donc, de prise en charge, de mobilisation communautaire. Il y a donc, à ce moment-là aussi, un phénomène, donc, un contexte général de passage d'une construction politique à une construction éthique de la vulnérabilité, et c'est peut-être cette dimension-là qui est la plus intéressante ici. On passe donc d'un contexte de lutte à la pauvreté qui fait place au soutien aux pauvres, une lutte à la vulnérabilité qui fait place au soutien et à la sollicitude face aux groupes vulnérables, et donc, potentiellement, à une gouvernance des vulnérables. On parle, la santé publique semble beaucoup plus s'orienter maintenant vers la protection de la dignité des vulnérables. Ça devient même des mandats des politiques de santé publique, en tout cas dans le monde anglo-saxon, ça devient une tendance importante. De la part d'États de Providence, beaucoup moins engagés dans la lutte pour l'égalité, dans la lutte pour l'abolition des inégalités sociales et économiques qui sont à la base des problèmes de santé, de la distribution inégalitaire des problèmes de santé. Et donc, il prend un peu l'allure presque d'un discours humanitaire. La santé publique devient quasiment une aide humanitaire pour population, assistance à population en danger, finalement. Il faut resituer, je pense, ce discours sur la vulnérabilité. Dans le cadre donc, des mobilisations, des revendications de ces groupes vulnérables, qui deviennent un peu en compétition pour revendiquer une part du capital de sympathie, du capital de compassion qu'il y a évidemment dans la société. Alors évidemment, là, on est peut-être face à un double discours de la part de ces groupes de pression, ou groupes associatifs, d'avoir un discours moralisant qui se décline en deux factions. D'abord, l'attribution d'une connotation éthique à la lutte à la vulnérabilité. Il est complètement non éthique ou immoral de la part de l'État de ne pas tout mettre en branle pour améliorer la santé de la population, surtout quand on a des problèmes de santé, des maladies ou des traumatismes évitables. Alors, on accuse ces groupes-là, vont tenir un discours moralisateur contre l'État, qu'on va accuser donc de se délester de la responsabilité, soit de lutter contre les inégalités sociales, soit carrément de prendre en charge les conditions optimales pour améliorer le sort de ces groupes vulnérables-là. Mais en même temps aussi, ces groupes-là développent un discours moral autour d'eux-mêmes qui se représentent comme étant les porteurs de valeurs de solidarité, de démocratie, de compassion, d'humanisme et de respect de la dignité. Alors même si ces groupes communautaires-là vont s'approprier aussi ce discours moralisateur, un discours quasi humanitaire pour défendre donc leurs intérêts. On le voit dans toutes sortes de milieux. Évidemment, dans le domaine des drogues injectables, sur lequel j'ai travaillé un peu plus de dernièrement, il y a évidemment la construction des utilisateurs de drogues injectables. Comme qui étant vulnérable, évidemment, à la transmission des virus, quelconque, par le biais des seringues souillées et tout ça, mais aussi la vulnérabilité de la prostitution. Hein, on est vulnérable à la prostitution si on est consommateur de drogue, parce qu'évidemment, il faut payer cette drogue-là, et on devient vulnérable aussi à la violence, à la marginalisation, la violence policière en particulier, mais la violence aussi entre les individus dans ces milieux de vie difficile. Alors donc, il y a une construction de la vulnérabilité. Mais en même temps, de la part des professionnels de la santé publique, on va aussi revendiquer des interventions de réduction des méfaits. Il va y avoir une mobilisation communautaire pour les approches de réduction des méfaits qui visent théoriquement non pas maintenant à culpabiliser ou à moraliser la consommation de drogue, mais plutôt au contraire à mettre en parenthèse tout jugement moral pour plutôt offrir au moins des conditions minimales de consommation de drogue qui préviennent justement la transmission des virus et tout ça, et qui préviennent évidemment aussi par exemple la violence, ou en particulier policière et tout, et la répression, par le biais des sites d'injection supervisés, où les toxicomanes peuvent avoir accès à une consommation de drogue dans des milieux sécuritaires et évidemment protégés à ce moment-là. Alors ici, il y a une logique politique répressive de l'État, qui est associée à l'absence de compassion, une insensibilité aux injustices, qui va être compensée par ces approches de réduction des méfaits. Où là, effectivement, on va laisser de côté dans la logique de l'approche de réduction des méfaits, on va laisser de côté simplement les considérations utilitaristes en disant oui, c'est bon pour la prévention stricto sensu, c'est bon parce qu'on respecte la liberté ou l'individualité des gens, ou évidemment pour des raisons paternalistes encore, mais on va beaucoup plus placer l'accent sur des valeurs de tolérance, des valeurs de compassion, des valeurs de justice sociale et un certain pragmatisme et même un certain humanisme. Dans cette logique de réduction des méfaits, il y a aussi donc, de la part des groupes de défense des utilisateurs de drogues injectables et de la part des professionnels de santé publique qui vont travailler pour le bien de ces groupes-là, récupération donc d'un discours moralisateur qui va servir évidemment les intérêts de financement et d'intervention de ces groupes. Si on veut bien comprendre cette logique de moralisation, cette mobilisation communautaire qui elle-même utilise le discours moral, le discours éthique, il faut le situer dans un contexte de moralisation générale dans la société par rapport à certains de ces groupes vulnérables-là. Et là, il y a deux axes de recherche intéressants, développés surtout par les sociologues, mais qui, à mon avis, sont porteurs d'intérêt là-dedans. Et c'est un processus de moralisation du discours associatif qui peut être vu comme le pendant positif de ce que ces sociologues appellent, entre autres avec Stanley Cohen, le phénomène de panique morale, qui est défini comme une condition, un épisode ou une personne ou un groupe devenant défini comme une menace aux valeurs aux intérêts de la société. Et aussi les recherches sur les croisades morales, qui ont été analysées par Howard Becker, mais plusieurs autres ensuite aussi, qui y voit des phénomènes de réaction collective à la modernisation culturelle qui accentuent les écarts entre la moralité et le monde vécu. On a deux tendances de moralisation des déviances, donc moralisation de ces groupes vulnérables, et je pense que une bonne partie du travail des groupes associatifs, indépendamment de leur volonté, enfin on le suppose, mais indirectement, finit par donc alimenter ce discours ou ce processus de moralisation de l'intervention. Parallèlement à ce phénomène-là aussi, on peut refaire une lecture des groupes associatifs comme des espaces moraux, donc des lieux d'émergence de discours moraux critiques, alors qu'ils sont à la fois des lieux de critique sociale, que j'ai mentionné tantôt, des lieux de promotion de certaines valeurs qui sont inscrites dans une éthique du partage. Alors, on va revendiquer évidemment là-dedans des valeurs d'engagement, de solidarité, de justice, de compassion. Et là, on a analysé, par exemple, les discours tous les discours tenus écrits et publics de différents groupes d'intervention dans le domaine des consommations de drogue et dans le domaine, entre autres, du VIH-SIDA. Et ces valeurs-là, ce discours moralisateur, il est omniprésent là, dans leur discours. Ils deviennent donc des lieux de coexistence et de partage de souffrance, si on reparle les discours de Richard Rorty en particulier. Mais ce discours de vulnérabilité-là, et ça intéresse aussi, à mon avis, l'anthropologie de la santé, certainement, n'est pas nécessairement donc embrassé par tout le monde. On n'y adhère pas toujours de la même façon. Il y a des exemples classiques de contestation, d'opposition même radicale. L'exemple des Inuits au Québec par rapport au phénomène du diabète était bien étudié, où, bien sûr, les Inuits, autochtones qui vivent dans le nord-est du Québec, reconnaissent bien qu'ils ont des comportements à risque au niveau alimentaire, qu'ils souffrent de problèmes de diabète, il n'y a pas de problème, mais ils refusent tout étiquetage en tant que groupe vulnérable en disant non, au contraire, nous sommes diabétiques, c'est nous, et le diabète devient même un marqueur identitaire du groupe comme tel. Et donc, non seulement on rejette la vulnérabilité, mais on revendique cette vulnérabilité-là en termes de marqueur identitaire pour le groupe. En disant, bon, ben, nous avons nos propres patterns alimentaires et nous ne sommes pas des blancs, nous sommes comme ça. Et toute tentative de culpabilisation, de vulnérabilisation devient donc problématique pour eux. On a le même discours chez les travailleuses du sexe qui revendiquent de ne pas être considérées comme des groupes à risque, mais au contraire d'avoir fait des choix volontaires. Ça rejoint un peu ce qu'on discutait tantôt. Ou peut-être qu'on n'a pas ici en France, mais en Amérique du Nord certainement, des groupes féministes extrêmement engagés qui peuvent expliquer pourquoi d'ailleurs il y a effectivement une opposition à l'hormonothérapie de substitution, parce qu'il y a une récupération en fin de compte de ce discours-là, qui, entre autres pour les travailleuses du sexe, qui disent « non, regarde, nous assumons les risques et nous refusons donc ce statut-là ». Même chose pour les bisexuels. Une étude récente a été faite aussi sur les sourds. Joël Dufour, une recherche qui vient d'être publiée, qui montre aussi que le groupe de ces sourds rejette pour une bonne part le statut de vulnérabilité. D'autres groupes, au contraire, vont utiliser évidemment ce statut de vulnérable-là comme levier politique pour en tirer des bénéfices. Alors, évidemment, j'en ai parlé un peu tantôt, de ces groupes-là, sans ironie, mais il y a des risques associés, évidemment, à cette approche-là. Un risque d'instrumentalisation de vulnérabilité, qui nous amène peut-être à relire les rapports entre l'État et les groupes associatifs comme étant une lutte pour une certaine monopole de l'addictitude politique, qui peut aboutir même à une guerre de néocorporatisme communautaire qui alimente des égoïsmes catégoriels. Et on le voit dans le fait de la fédération, qu'on observe en tout cas dans le cas du Québec et certainement en Amérique du Nord, une fédération de différents groupes de défense qui veulent se constituer en pouvoir politique, effectivement, dans ce sens-là, pour défendre les intérêts évidemment, de leurs vulnérables en compétition avec d'autres groupes vulnérables. Donc, en conclusion, quand même, la vulnérabilité, c'est bien sûr une construction socioculturelle, évidemment, c'est bon, dire ça, c'est pas dire grand-chose. Mais il y a certainement une dimension qui a été moins analysée, c'est cette dimension de vulnérabilité qui ne résulte pas d'un processus linéaire d'attribution d'une étiquette de vulnérabilité. Ce n'est plus simplement la santé publique qui dit « voilà les groupes à risque, voilà les facteurs de risque auxquels ils sont exposés, voilà leur incompétence, voilà maintenant les interventions d'empowerment ou le développement des capacités qui vont les amener à ce stade. » Il y a en même temps, donc, il n'y a pas simplement ce discours non plus sur l'influence des inégalités socio-économiques qui serait à la base de la construction de ces vulnérabilités-là. Mais on est beaucoup plus dans une logique de co-construction d'un discours moral. De la part à la fois de l'État, évidemment, et d'une partie de la population, qui, dans des phénomènes de panique morale ou de croisade morale, finissent par attribuer des connotations morales négatives à ces groupes vulnérables-là, mais en même temps, construction d'un discours tout aussi moral de la part des groupes associatifs et des associations de défense des groupes d'intérêt dans le VIH-SIDA ou dans le groupe de toxicomanie, qui, donc, viennent apporter leur vision de la culpabilité ou de la vulnérabilité dans ces groupes-là. Alors, une éthique de la vulnérabilité doit absolument englober donc ces enjeux d'une guérison des vulnérabilités, en passant par analyse donc des processus de mobilisation des discours des groupes de défense, de l'État bien sûr, mais aussi des groupes de défense des vulnérables, et un discours qui apparaît beaucoup plus donc comme une co-construction de la définition des responsabilités. Voilà.
Merci pour cette exposé. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs questions qui sont traitées dans cet exposé, enfin, et qui rendent difficile justement la compréhension, parce qu'il y a effectivement, d'une part, la question de savoir si la santé, c'est la valeur supérieure et ultime pour l'ensemble des groupes sociaux de la société. Quand on parle de ces populations autochtones qui revendiquent le diabète comme une preuve de leur identité, je crois que c'est une autre conception de soi, je dirais, dans laquelle la santé n'a pas la même place qu'elle a dans la société occidentale globalisée. Il y a un autre point, surtout, et je pensais aussi, par exemple, au Berbac, hein, je veux dire, comme revendication chez les gays, de la pratique à risque, en fait, qui est la plus, dénoncée. Mais si on revient à la question du sida, elle s'est posée dans les années 90, on a renoncé à l'appellation de groupe à risque, et notamment groupe à risque pour les populations africaines, d'origine africaine, subsaharienne ou d'origine des Caraïbes, qu'on a noyé dans ce qu'on a appelé, dans ce que le rapport d'Ouskoblasi avait appelé la population hétérosexuelle, par peur de la stigmatisation. Et je dirais, alors ensuite, effectivement, on est passé de l'expression de groupe à risque à celle de groupe vulnérable, et qui était exactement la même chose. Et je crois que, pour moi, la question, elle est la suivante. Est-ce que, finalement, des organismes de prévention et de santé ne doivent-ils pas avoir une vision précise des situations de risque, disons, qui sont différentes dans la société, au risque de stigmatiser, parce qu'au bout d'un moment, on a arrêté de désigner les Africains et les gens des Caraïbes comme des hétérosexuels. Les hétérosexuels, c'est 95% de la population en France, donc c'est pas très discriminant. Et on s'est rendu compte que finalement, ces gens avaient un déficit d'attention, de campagne de prévention, d'aide, etc. Donc, je crois qu'il y a effectivement des avantages et des inconvénients dans la désignation, et enfin, d'abord dans l'identification des groupes à risque ou vulnérables, et d'autre part dans leur visibilisation, qui permet finalement qu'il y ait des actions. Alors, ensuite, on peut discuter de tout ça, mais ça s'est traduit en France par un déficit d'intervention à l'égard des populations dites noires.
Je pense que ça va. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans, mais enfin, je reviens sur cet aspect-là. En quoi ça peut être nouveau ou autre? C'est que les discours, entre autres, que les anthropologues de la santé, les sociologues ou ça, en même temps, ont tenu sur la santé publique, étaient des discours en disant la santé publique culpabilise la victime. Il y a des abus de pouvoir qui amènent des phénomènes d'étiquetage social et ensuite donc de discrimination, de stigmatisation. Comme si c'était simplement la santé publique qui était le porteur de ce message-là, et que les populations ciblées, populations à risque, étaient apathiques. Elles n'étaient pas là, elles étaient inexistantes, qu'elles ne réagissaient pas. Ce que j'essaie simplement de mentionner ici, c'est qu'on a peut-être moins analysé, enfin, on a mis beaucoup moins d'insistance du côté des anthropologues de santé, puis je me situe parmi ce groupe-là. On a mis beaucoup plus, si on parle inverse, beaucoup plus d'insistance sur la construction du blâme par la santé publique, donc une dénonciation de la santé publique, que sur la façon dont les groupes vulnérables, enfin, qui se sont perçus ou redéfinis comme vulnérables, se sont pris en main et ont géré cette réalité-là. Quand vous dites, faites référence aux Inuits, c'est bel et bien un discours de santé publique qu'ils se sont accaparés. Donc, le tout a commencé par un discours de santé publique, bon, qui était de toute façon basé sur des réalités. La problématique du diabète, on atteint les prévalences de 30 à 40 de diabète dans différentes communautés Innu. C'est majeur, parce que c'est un problème majeur. Et on a mis sur pied tout un ensemble de programmes d'intervention, de prévention pour, évidemment, santé alimentaire, etc., pour promouvoir l'activité physique, enfin, les approches préventives, évidemment, contre le diabète. Et ce discours-là, il était donc un discours de blâme contre l'incompétence des Inuits, enfin implicitement. D'ailleurs, c'est le même discours qu'on tient par rapport au blanc, par rapport à l'obésité ou au diabète. Mais dans ce cas-là, ça concerne une proportion tellement importante des Inuits que ça a confronté cette population-là qui a repris le discours et qui, en fin de compte, je ne dis pas qu'ils luttent contre les politiques de santé publique, mais ils ont déculpabilisé, si on veut. D'abord, ils ont culpabilisé les politiques de santé publique pour ne pas mettre assez d'insistance sur les conditions de pauvreté dans lesquelles vivent les communautés. Donc, on a reproché à la santé publique cette dépolitisation-là, ce désengagement socio-économique, à tort ou à raison. Et donc, on a moralisé le discours. Et le rebondissement de tout ça a été d'accuser, de tenir un discours sur l'immoralité ou le caractère non éthique des interventions de santé publique. Et en même temps, bien évidemment, c'est devenu un marqueur de l'identité innue. Alors non, ce que je veux dire simplement, c'est que maintenant, les choses sont peut-être un peu plus compliquées que ce qu'on le faisait lorsqu'on dénonçait de façon quasiment unilatérale là, les approches de santé publique en disant « Les approches de santé publique construisent des vulnérabilités, construisent du blâme, victimisent les gens et génèrent des problèmes d'étiquetage, de stigmatisation, de discrimination. » Le phénomène n'est pas aussi unidirectionnel que ça. C'est simplement ce que je voulais mentionner. Et que c'est tout aussi intéressant d'analyser de quelle façon les populations qui se revendiquent d'une vulnérabilité maintenant reconstruisent un discours qui lui-même est un discours moral. Et donc là, il y a un champ d'études simplement que je pense intéressant à explorer ici.
Oui, j'aimerais rebondir sur la remarque d'Alain. C'est vrai que c'est Marcel Calvet, je crois, dans un livre qui est sorti au début des années 90, qui dit que dans les années 80, on est passé justement des populations à risque au comportement à risque pour éviter justement ces problèmes de stigmatisation. Le pendant, alors négatif, je ne sais pas, mais inverse en tout cas, c'est que du coup, on a remis sur la responsabilité individuelle. C'est vrai que du coup, si on cible l'individu et sa capacité à faire ou à mal faire, avoir de bons comportements de santé ou de mauvais comportements de santé, n'y a plus de problème de stigmatisation d'un groupe. Sauf que de notre côté, ça affaiblit la responsabilité politique d'un environnement ou d'un groupe. Dans la lutte, par exemple, contre le cancer, aujourd'hui, l'INCa produit des manuels sur la modification des comportements. On ne se pose plus forcément la question de savoir si on vit dans un monde trop pollué, trop salé, ou si on est sollicité pour avoir des mauvais comportements. On met la ligne, on met le point d'action sur l'individu qui a l'avantage de ne pas résister politiquement, puisqu'il est atomisé par définition. Ce qui, d'ailleurs, peut aussi rentrer à une époque individualiste, où être responsable, c'est que de soi. C'est encore plus vrai peut-être dans le cancer, où en plus on observe que les patients, entre guillemets, sont presque demandeurs de ça. C'est les théories de psychogénèse du cancer, c'est « si j'ai fait mon cancer, c'est ma faute ». C'était parce que j'ai divorcé, parce que je travaillais trop, parce que j'étais négatif. Donc comment en fait, est-ce que tout le monde n'a pas intérêt à mettre le focus sur l'individu et pas sur les collectifs, pour de bonnes raisons, pas de stigmatisation de groupe, et puis pour de mauvaises raisons, dépolitisation de problèmes qui sont peut-être partiellement politiques.
Oui, enfin, non, il ne s'agit pas de revenir strictement, en tout cas, une culpabilisation de l'individu comme tel. Bien sûr, il y a toujours les dimensions individuelles, et on ne fera pas la santé publique. Là. Il y a longtemps qu'on a dépassé les interventions strictement individuelles hein, pour passer à des dimensions collectives. En tout cas, bref, au moins, en tout cas, dans le monde anglo-saxon, c'est épidémique. En général, quoi, je pense que c'est un peu international. On va beaucoup plus tenter de s'attaquer à des facteurs sociaux, économiques, théoriquement. Ce que je mentionne simplement ici, c'est que derrière le discours sur la vulnérabilité, il semble y avoir, à mon avis, en tout cas, une certaine dépolitisation. Et ce que je vois en trame de fond dans tout ça, c'est que, alors qu'avant, il y avait l'opposition entre un discours sur le discours individualiste, hein, on blâme la victime, discours épidémiologique de santé publique de base, il y avait quand même un pendant sociopolitique. Et maintenant, avec ce discours sur la vulnérabilisation-là, on est plus dans une logique de lutte à la dignité, les dimensions humanitaires dans tout ça. Et ce discours de vulnérabilité-là est repris en même temps par les populations vulnérables, en fait, certaines de ces populations vulnérables, en fait, presque par toutes, hein, parce que la plupart des populations vulnérables sont représentées par des groupes, en fait, des groupes de défense, etc., soit récupérées pour revendiquer plus de services, soit récupérées pour les rejeter, et vous rejeter, contester cette étiquette-là. Alors, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a peut-être, je pose la question, est-ce que derrière cette émergence d'un discours éthique et morale sur la vulnérabilité, est-ce qu'on n'est pas face à un phénomène justement de désengagement sociopolitique en faveur d'une lutte aux inégalités sociales qu'on avait engagée, je pense, dans les années 1990 et 2000, certainement, mais qui, en tout cas au Canada, ça semble clair qu'il y a un désengagement là-dedans qui est en train de se faire. Je soulève simplement ce problème.
Alors moi je voulais dire justement que entre les groupes vulnérables et puis les comportements à risque, il y a aussi une troisième voie qu'on avait utilisée à l'époque où je travaillais sur la contraception, c'est la notion de situation à risque qui mobilise à la fois effectivement un contexte social mais aussi un contexte individuel et de relation avec l'autre, notamment des relations de genre, hommes-femmes, et donc là où en fait les deux pourraient trouver leur expression à la fois sociale et individuelle, et sans occulter justement la lutte contre les inégalités, etc. Mm-hmm. Mais qui n'est pas stigmatisant.
Oui, tout à fait. Quand je dis il y a un passage, en fait, peut-être en trois étapes, là, de discours reprochant, enfin, blâmant l'individu comme tel. Ensuite, où on est passé aux notions de situation à risque ou de contexte à risque, contexte de vie à risque ou conditions de vie à risque. Qui marque bien ce volet un peu plus sociopolitique et d'engagement politique, qui a marqué la santé publique certainement là, dans les années 90-2000. Mais je pense que maintenant, il arrive ce discours sur la vulnérabilité, qui est une forme de récupération, on dirait un peu éthique et morale, d'un discours sociopolitique. Hein. On peut faire cette hypothèse-là. Et on parle beaucoup moins maintenant de situation à risque ou de conditions de vie à risque. Et ça m'apparaît un peu problématique. Ça ne veut pas dire qu'on a tout évacué, ça, mais il y a une préséance maintenant des considérations de dignité et même d'intervention quasi humanitaire envers les groupes qui ne relèvent plus autant, qui relèvent plus d'une logique éthique économologique, strictement, là, sociopolitique. Et je pense qu'il y a un risque là, de débordement, enfin, de nous transposer ailleurs que dans les véritables luttes contre les véritables conditions de vie à risque qui sont demandées, à mon avis, de base de la santé publique.
Moi, j'avais juste un dernier commentaire, parce qu'il y a ces questions qui évoquent dans l'espace de la santé publique, mais plus généralement, il y a une extension des usages de la notion de vulnérabilité bien au-delà du champ de la santé publique. Mmh. Et dans les politiques sociales, ça devient un lexique assez, pour même dire hégémonique, de plus en plus. Alors, il y a eu des critiques qui ressemblent aux tiennes autour justement des formes d'euphémisation que ça implique. Enfin, le fait de dire vulnérable, ça permet aussi de ne pas faire usage d'autres termes qui seraient plus marqués. Mais il y a aussi toute la critique qui en a été faite. Alors, à la fois en termes généalogiques par quelqu'un qui s'appelle Hélène Thomas, qui enseigne à Aix-en-Provence à côté, voilà, qui justement fait tout un travail de généalogie de cette catégorie de vulnérabilité au-delà de la médecine, qui est très intéressant. Et puis il y a aussi tous les travaux autour du CAIR qui, eux, revendiquent qu'on soit tous vulnérables et qui donc amènent une définition politique de la vulnérabilité au-delà des limites. Mais ce qui montre comment faire et ambivalent peut être entendu de manière très diverse.
Mais effectivement, ce que Hélène Thomas dénonce, c'est bien ça. Tu vois. Bon, peut-être pas avec le langage de l'éthique, là, mais elle dénonce justement le désengagement sociopolitique par rapport à la vulnérabilité. Pour le CAIR, je dirais qu'il faut être prudent, parce qu'il y a plusieurs approches du CAIR. Hein. Et il y a un discours éthique et moral extrêmement omniprésent aussi dans le CAIR, autour des travaux de Madame Nussbaum en particulier. Et là, je ne suis pas certain que c'est tous les volets du CAIR qui revendiquent un réancrage de l'intervention dans la lutte aux inégalités socio-économiques. Et il y a plusieurs tendances dans le CAIR aussi.
Merci vraiment beaucoup.